Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer cette nouvelle édition de la Biennale. Alors, je vous invite à prendre place. Bien, Madame la Directrice, chère Martine Dutoit, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers partenaires et bâtisseurs, c'était l'expression de Jean-Marie Vernier. C'est un honneur, c'est aussi et surtout un très grand plaisir de vous accueillir au CNAM aujourd'hui pour cette édition de la Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles. Cette Biennale internationale, vous le savez, est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable pour penser, interroger et transformer les liens entre savoir, pratiques professionnelles, mutation du travail. C'est un espace précieux de dialogue entre chercheurs, formateurs, professionnels, acteurs de terrain, intellectuels. Et cette édition 2026 revêt une dimension très particulière. Nous la dédions, non sans émotion, à la mémoire de Jean-Marie Barbier, professeur émérite au CNAM, qui a présidé l'association depuis 2012 jusqu'à sa disparition le 14 janvier 2026. Jean-Marie Barbier s'était profondément investi dans la préparation de cette nouvelle édition et je me souviens avec émotion des différents rendez-vous préparatoires que nous avions pu avoir et de sa joie de savoir que cette édition se tiendrait au CNAM. Ces travaux, vous le savez mieux que moi, vous les connaissez, ces travaux ont contribué largement à éclairer la place centrale de l'expérience et aussi de l'analyse de l'activité, des parcours de vie, des dynamiques d'expérience dans les sciences de l'éducation et de la formation. Il en sera question tout au long de ces 3 jours. Je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs et des contributeurs de la Biennale, l'Association de la Biennale, le Laboratoire Formation Apprentissage Professionnel, le Laboratoire FOP du CNAM, tous nos enseignants-chercheurs, tous nos partenaires. Tout le monde, les équipes techniques également, je ne sais pas, qui était là il y a un instant, tout le monde a été mobilisé pour faire de cette rencontre un moment de réflexion et de partage à la hauteur des enjeux qu'elle porte. Et le thème choisi cette année, « Faire expérience », ne pouvait pas mieux résonner avec l'histoire et l'identité du CNAM. Le CNAM a été créé en 1794, en pleine révolution, par Henri Grégoire, avec ce souci de conserver les objets et les innovations les plus récentes pour pouvoir, à partir d'elles, enseigner, à partir de l'expérience, accroître les savoirs. Le CNAM, au départ, n'était pas ce grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche que vous connaissez aujourd'hui. C'était, comme son nom l'indique, un conservatoire. Le premier conservatoire, puisque les conservatoires de musique et de danse ont été créés en 1795. Et dans ce conservatoire, il y avait des démonstrateurs. Et ces démonstrateurs, on le voit encore au musée aujourd'hui, apportaient les objets sur des rails que vous pourrez voir au musée pour apprendre à partir des objets. Cette identité et ce projet initial du CNAM n'a jamais été oublié au CNAM. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui toute la singularité. Former au CNAM, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances. C'est accompagner des parcours de vie, c'est faire expérience ensemble. Former au CNAM, c'est tisser un lien étroit entre savoir et évolution de la société et des métiers. Former au CNAM, c'est aussi former tout au long de la vie. Former chaque personne individuellement, où qu'elle soit, quel que soit son parcours de vie, quelles que soient ses études antérieures. Former au CNAM, c'est valoriser l'expérience de chacun. C'est au CNAM que s'est développée la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience. Une expression trop souvent galvaudée et qui a une telle signification profonde. Valoriser les acquis de l'expérience et pas uniquement les savoirs académiques et techniques. Enfin, former au CNAM, c'est valoriser à travers l'expérience non seulement les réussites, mais aussi les échecs. Et je terminerai par là. Durant ces 3 jours, je vous invite, bien sûr, et je sais que c'est dans votre programme, à aller visiter le musée des arts et métiers. Et si vous le pouvez, cette belle exposition flop sur les échecs. Échouer, réussir, innover, tout cela va ensemble. Et cela fait partie aussi de l'expérience. Voilà, c'est donc un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente biennale et dans la mesure de mes possibilités, je tâcherai de revenir écouter certains d'entre vous et être présente parmi vous, tant c'est un honneur pour nous de vous accueillir.
Chers collègues, chers partenaires, chers participants, c'est avec une grande joie et je dois le dire une certaine émotion que je vous accueille aujourd'hui pour l'ouverture de cette Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles. Si nous sommes réunis ici, si nombreux, si divers, c'est sans doute parce que nous partageons une conviction simple mais exigeante. On n'apprend jamais seulement en accumulant des connaissances. On apprend en vivant, en faisant, en traversant des expériences. Et c'est précisément ce que nous avons choisi d'explorer ensemble aujourd'hui, pendant ces 3 jours, faire expérience. Permettez-moi tout d'abord, en tant que directeur adjoint du laboratoire formation et apprentissage professionnel, le FOAP, de vous souhaiter la bienvenue. Votre présence, venue de divers horizons géographiques, institutionnels et disciplinaires, témoigne de la vitalité d'un champ qui, plus que jamais, interroge les manières dont les humains apprennent, se transforment et construisent du sens dans et par l'action. Une devise du CNAM, former pour transformer. Et nous le savons bien, ce travail ne se fait jamais seul. Il se construit dans les échanges, dans les contextes professionnels, dans les collectifs, dans les institutions. Faire expérience. L'expression peut sembler familière, et pourtant elle mérite qu'on s'y arrête. Car faire expérience, ce n'est pas simplement vivre des situations. Ce n'est pas non plus accumuler un capital d'expérience que l'on pourrait mobiliser à volonté. Faire expérience, c'est autre chose. C'est ce moment, ces instants, où ce que l'on vit nous transforme. C'est ce travail, parfois discret, parfois exigeant, par lequel une situation devient ressource pour penser, pour agir, pour devenir. Dans nos domaines, l'éducation, la formation, le travail, l'expérience est partout. Elle est à la fois ce qui nous arrive et ce que nous en faisons. C'est précisément à ces questions que s'attache le laboratoire formation et apprentissage professionnel, créé en 2019, dont l'originalité repose sur une complémentarité institutionnelle construite sur 3 sites d'établissement, le CNAM, l'Institut Agro-Dijon et l'ENSTA, Institut Polytechnique de Paris. Depuis sa création, notre laboratoire s'efforce de comprendre ce qui se joue réellement dans les situations d'apprentissage, pas seulement dans les dispositifs prescrits, mais dans l'activité telle qu'elle se vit, dans les gestes du quotidien, dans les ajustements invisibles, dans les interactions parfois fragiles, parfois décisives. Car ce sont eux qui chaque jour inventent, ajustent, transforment les pratiques. Ce sont eux qui produisent des savoirs, souvent sans les nommer comme tels. Et notre responsabilité comme chercheurs est peut-être d'abord celle-ci. Rendre ces expériences intelligibles, partageables et fécondes. Aussi, je tiens à remercier l'ensemble des membres du laboratoire, enseignants-chercheurs, personnel BIATS, doctorants et doctorantes, qui, par leur engagement, ont participé à la réussite de cet événement. Parler d'expérience aujourd'hui, c'est aussi penser à celles et à ceux qui nous ont appris à la regarder autrement. Je voudrais ici rendre hommage à Jean-Marie Barbier qui nous a récemment quittés et qui a profondément marqué notre laboratoire et notre communauté. Jean-Marie nous a appris quelque chose d'essentiel, que l'expérience ne va jamais de soi, qu'elle est toujours construite, interprétée, travaillée. qu'elle suppose un effort pour être comprise, partagée et transformée. Mais au-delà du chercheur, beaucoup d'entre nous ont connu un homme d'une grande générosité intellectuelle, d'une exigence rare et profondément attentif aux autres. Au FOAP, il s'est engagé avec une énergie remarquable, notamment auprès des doctorants. Il a contribué à créer des espaces où l'on pouvait penser librement, rigoureusement, collectivement. Il a animé dernièrement avec Martine le séminaire interuniversitaire de recherche intitulé « Approche anthropologique de la construction des activités des sujets en activité », ouvert à toutes les personnes intéressées. Et je crois que si nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette thématique, c'est aussi en partie parce que son travail continue de nous accompagner. Lui rendre hommage aujourd'hui, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est continuer à faire vivre les questions qu'il nous a laissées. Car au fond, faire expérience, c'est aussi cela, accepter de rester en mouvement. Continuer à interroger, à s'interroger, ce que nous faisons quand nous formons, ce que vivent celles et ceux que nous accompagnons, et ce que deviennent ces expériences dans leur parcours. C'est aussi accepter que notre propre pratique de recherche, de formation, d'intervention, soit elle-même des terrains d'expérience. Pour conclure, je voudrais formuler un souhait simple, que cette biennale soit pour chacune et chacun d'entre vous un moment de rencontre sincère, un espace de réflexion exigeante et peut-être aussi un moment de transformation. Que vous en repartiez avec des idées nouvelles, bien sûr, mais aussi des questions, des déplacements, des envies d'agir autrement. Et que nous continuons ensemble à faire de l'expérience non pas seulement un objet d'étude et de recherche, mais une ressource vivante pour penser et transformer nos pratiques. Je vous remercie et vous souhaite une très belle biennale.
Oui, bonjour à tous. Donc, je représente ici l'entité biennale, l'association biennale. Excusez-moi, je serai émue, hein, mais Jean-Marie, dont on a beaucoup et qu'on va pas arrêter d'évoquer pendant toute cette biennale, nous a laissé l'esprit de la biennale. Et l'esprit de la biennale, j'espère que vous l'avez senti dans tous les échanges qu'on a eus. C'est cette idée d'avoir toujours un petit mot gentil, d'être au service pour que cet événement soit le vôtre aussi. Cette idée de la coopération entre des personnes qui essayent de s'ajuster au mieux. Hein. Alors, dans un esprit, de faire avancer finalement les idées avant. Et puis, cette idée de convivialité, de simplicité, c'était vraiment la patte de Jean-Marie et c'est ce qu'il nous a transmis. Et je peux vous dire que l'équipe qui s'est réunie pour cette biennale a travaillé comme ça, hein, travaillé dans cette bonne dynamique où on essaye effectivement de faire le au mieux, hein, et toujours avec exigence, mais aussi générosité. Donc j'espère que vous allez profiter de tous les moments où vous allez sentir cette coopération, cette générosité. Vous avez déjà dû le sentir dès ce matin avec nos bénévoles qui essayent d'être au plus près pour vous rendre service dans cette biennale. Alors, cette biennale, elle est marquée par le départ de Jean-Marie, bien sûr, et puis aussi, vous n'aurez pas à notre côté la fameuse Jeannine, qui est toujours derrière l'adresse contact, la biennale, etc. Mais Jeannine, je voudrais que vous l'applaudissiez parce que figurez-vous qu'elle a fait cette biennale en se battant contre un cancer et que si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'elle reste très fragile, mais elle est derrière là, hein, elle est derrière nous. Et donc je voudrais qu'on l'applaudisse. C'est très gentil et je crois qu'elle nous entend. Donc, je voulais vous dire que effectivement, on n'est pas venu les mains vides parce que grâce à l'éditeur de Jean-Marie, Octares, Jean-Christol qui est là parmi nous, eh bien, le bouquin, son ultime bouquin, mais qu'il avait vraiment porté, hein, il était quasiment fait, il n'y avait que des petites retouches à faire. Et donc il est là, il sera disponible à la librairie. Et donc le titre, rien que le titre, nous dit tout Jean-Marie et tout son travail. merveilleuse activité humaine. Hein, et le sous-titre, proposition pour penser, transformer les champs de pratique en champs de recherche. Donc ça, c'est vraiment tout un projet qu'il a mené pendant toute sa vie. Et donc, voilà, je vous invite. Et puis, nos amis polonais, Eva qui est là et qui est sa traductrice, nous a aussi amené un exemplaire. Alors, c'est du polonais, hein, par Marek dans la salle. Je crois que peu de gens peuvent le lire. Mais franchement, ça fait plaisir aussi de savoir qu'il y a un rayonnement international. Et vous êtes aussi le reflet de ce... Rappelez-vous qu'on a mis dans le programme le nombre de pays représentés. Nous, je crois qu'on en est à 36. Donc, c'est aussi ça, la Biennale. C'est que le terme international, francophone, on a quelques personnes, effectivement, qui vont s'exprimer un peu plus difficilement en français, mais qui font cet effort d'être dans cette communauté aussi francophone. Donc... on peut juste rappeler que la Biennale donc réunit presque un millier de personnes. Bon, on en est avec des gens qui viennent quelquefois un jour, pas les trois jours, mais enfin bon, on en est à peu près là. Donc on est sur des acteurs, des chercheurs qui sont à la fois professionnels ou décideurs dans le champ de la formation. Et c'est aussi cette idée pour laquelle vous voyez afficher nos partenaires qui vont être les représentants aussi de ce monde professionnel. Et c'est ces rencontres-là qui nous importent et qui importaient beaucoup à Jean-Marie, c'est-à-dire qu'on vous a invité à faire des communications qui soient ou des communications d'expérience ou des communications de recherche pour que dans les ateliers, les choses se croisent, se parlent et que l'un ne soit pas finalement... une application de l'autre. Et ça, c'est très important, ne pas considérer qu'on produit une science qui va s'appliquer dans les pratiques. Voilà. J'en suis l'exemple même, puisque étant il y a longtemps doctorante de Jean-Marie, j'étais moi-même professionnelle. Et c'est ça qui expliquait notre rencontre forte aussi, de travailler sur cet aspect-là, qui n'est pas on n'est pas une application de la science. Ça, c'est très, très important. Donc, je vous invite à garder ça à l'esprit. Et puis, l'expérience, effectivement, qui est au cœur de notre travail, qui va être au cœur du travail que vous allez mener, eh bien, ça, c'est effectivement d'essayer de s'inspirer un petit peu de cette idée que c'est à la fois du vécu, c'est à la fois une élaboration, et c'est aussi des choses qui se communiquent. Ça, c'est la définition très inspirante de Jean-Marie. Hein. Donc, le lien entre les transformations d'expérience, les transformations d'engagement dans l'action, ces multiples formes de transformation, c'est ça, dans les situations professionnelles, c'est ça qui est au cœur du travail qui va se faire pendant ces trois jours. Voilà. Donc, je ne veux pas en rajouter plus, je vais laisser la parole à nos partenaires. Et voilà. Merci Jean-Marie.
Bonjour, mon nom est Jean-Claude Caloubi de l'Université de Sherbrooke. Je suis vice-président de l'Association internationale de recherche sur la formation et l'éducation familiale, qui tient son 20e congrès dans le cadre de cette biennale. Et je viens au nom de mes collègues de l'association vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à notre 20e congrès international. Je voudrais surtout profiter de l'occasion pour souligner quelques petits messages. Le premier, c'est que notre congrès se tient dans le cadre de la Biennale, pour la première fois dans le cadre de la Biennale. Il faudrait peut-être dire comment on en est arrivé là. L'autre message, c'est que notre association... fêtant son 20e congrès, c'est 40 ans de vie. Il se passe beaucoup de choses en 40 ans. Et le dernier message, ce sera en lien avec le thème du jour, vers une éducation familiale et scolaire émancipatrice. Mais vous avez bien compris, en séance d'introduction, on n'a pas tout le temps, hein. Et je n'attendrai pas que Martine me demande de quitter rapidement. Alors, je vais dire ça en bref pour quitter avant qu'on ne me fasse signe. Alors, nous nous retrouvons dans le cadre de la biennale grâce à l'entente entre Jean-Marie Barbier et Jean-Pierre Pourtois. Les deux ne sont pas là aujourd'hui pour des raisons différentes. Jean-Marie, on l'a souligné, tout le monde l'a dit, mais je voudrais juste dire que sans son esprit de partenariat, de collaboration, d'accueil, on ne serait pas là ensemble aujourd'hui. Et je voudrais profiter de l'occasion, effectivement, pour souligner combien Jean-Marie a toujours voulu nous encourager à venir ici, d'abord dans différentes biennales, mais aussi faire en sorte que nous puissions vivre ensemble une expérience positive, intéressante. Et au nom de tous les collègues de l'EFREF, je lui dis merci et je lui rends hommage. Jean-Pierre, pour toi qui a échangé avec, qui a collaboré avec Jean-Marie Barbier depuis plusieurs années, n'est pas là parce qu'indisponible, mais il est présent sous différentes formes à travers nous, parce que nous avons préparé le congrès ensemble et c'est lui qui devait prendre la parole, donc je ne fais que le remplacer. Et les deux, donc le partenariat entre les deux nous a amené dans l'esprit de prise de décision ensemble, dans l'esprit de collaboration, dans l'esprit de complémentarité. Et l'expérience que nous allons vivre à travers la participation à la biennale ne fait que renforcer cet esprit positif. Alors, je viens au point sur les 40 ans de l'EFREF. Alors, depuis les années 80, les membres de l'EFREF, qui est une association de droit canadien, une association internationale, mais dirigée depuis le début par Jean-Pierre Pourtois de l'Université de Mons, l'EFREF a permis de rassembler des membres de plusieurs endroits, de plusieurs pays. On a des délégations de 20 pays, donc ce qui n'est pas peu. Donc on n'est pas aux Nations Unies ni à l'UNESCO, mais quand même représentant de 20 pays, ça veut dire plusieurs expériences, plusieurs échanges d'interdisciplinarité, plusieurs échanges interculturels, etc., etc. Je voudrais dire que depuis 1987, on peut voir passer des changements de paradigme, des changements de thème. Au départ, c'était un rassemblement entre psychopédagogues, psychologues, questionnant les savoirs des parents, les savoirs des mères, l'implication parentale. Et au fil du temps, d'une année à l'autre, plusieurs thèmes ont été abordés, presque tous les thèmes qui sont enseignés en sciences humaines et sociales, comme diraient les membres du Conseil canadien, de la professionnalisation aux alliances éducatives, à l'investissement numérique, etc., etc. Aujourd'hui, on est arrivé à parler de l'émancipation. Bien sûr, on ne peut pas discuter de l'émancipation en oubliant que depuis près de deux décennies, il y a tout le thème de l'inclusion qui a aussi dominé les échanges. Et pour parler de l'émancipation, je ne vais pas remplacer tout le travail qui a été fait par mes collègues dans la préparation du congrès. Et dans le cadre de ce congrès, je peux déjà vous dire que c'est une trentaine de symposiums, quatre conférences, plusieurs ateliers. Tout ce monde-là vient pour essayer de parler de comment on peut trouver des repères, dans le cadre d'une éducation familiale et scolaire émancipatrice. Beaucoup de contributions nous permettant surtout d'envisager l'avenir. Après 40 ans, je pense que les gens sont mûrs, mais pour une association, bon, il y a aussi une grande maturité et la force surtout de poursuivre dans le sens de l'engagement qui a été vécu jusque-là, poursuivre dans le sens de l'ouverture, de la diversité, poursuivre dans le sens de contribution plurielle. Et c'est sur ces mots-là que je voudrais peut-être m'arrêter en vous demandant de ne pas manquer de vivre l'expérience. Ce mot-clé est important, mais vous allez vivre l'expérience en côtoyant les membres de l'EFREF qui sont présents ici, en écoutant les différentes communications et surtout en préparant l'enrichissement de notre monde commun. Et c'est sur ces mots-là que je vous dis merci et je vous souhaite bienvenue à notre 20e congrès international et aussi bienvenue à l'expérience de la Biennale de l'éducation et de la formation. Merci.
Bien, bien. Bienvenue à vous. Je suis président de l'AFREF, qui est l'Association française pour la réflexion et l'échange sur la formation. Alors, vous avez parlé de 40 ans. Enfin, l'association a plus de 60 ans. Hein, c'est créé en 1961. Pourquoi ? Ben parce qu'à ce moment-là, se mettaient en place, disons, des responsables de formation dans les entreprises. Et un responsable de formation d'entreprise d'IBM a eu l'idée de créer une association pour construire un métier de responsable de formation d'entreprise. Et ça a d'ailleurs, d'une certaine manière, induit un fonctionnement, puisque c'était un lieu à la fois d'échange, de réflexion et de mutualisation d'expérience. Et puis l'AFREF, donc ça, il s'appelait l'AFREF, Association française des responsables de formation. Et puis, la formation s'est quand même beaucoup plus développée, pas uniquement au sein de l'entreprise, aussi bien dans les promotions sociales, dans l'éducation permanente et dans d'autres actions. Et l'association est devenue l'association, disons, pour l'expansion de la formation. Avec toujours l'idée de développer l'autonomie, développer l'émancipation et, d'une certaine manière, faire une société plus juste, et pas uniquement celle qui serait, j'allais dire, en effectivité pour les compétences dans les entreprises, bien que ça reste dominant. Alors, qu'est-ce que c'est l'AFREF aujourd'hui, puisqu'elle a changé de nom, tout en gardant le même sigle, pour une troisième fois, Association française de réflexion et d'échange sur la formation, bien, elle a poursuivi une attitude de veille, une attitude de compréhension, une attitude d'échange, une attitude de proposition. Mais, j'ai dire actuellement, la question de la formation se pose de façon différente. D'abord, parce qu'il y a beaucoup, d'expérimentation, d'environnement apprenant, d'environnement capacitant, du faire ensemble, à partir d'objets communs, pour construire un avenir, plus désirable. Et on voit bien que là aussi, les apprentissages sont les apprentissages par la rencontre et par le faire ensemble. Donc ça, c'est déjà une première différence. Que veut dire formation ? Et on voit bien que dans cette position, les apprentissages conduisent à des comportements sociaux, des comportements d'échange, qui, pour le coup, forment autrement. Et on voit bien qu'à ce moment-là, la formation, ce n'est pas uniquement une adaptation, une volonté de mettre en effectivité des objectifs par un dispositif. On voit bien que ce qui résulte des apprentissages, mais en forme autrement, dans une relation, j'allais dire, qui forme ensemble par rapport à une façon d'être en société. Et on voit bien que les modes de production pédagogique sont différents si le savoir descend, si on le construit ensemble. On n'est plus dans la même position. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des formations qui se passent, mais le positionnement des personnes qui sont en jeu, y compris les formateurs, est tout à fait différent. Alors, nous avons, et ça va nous amener à la position de la FREF par rapport à cette biennale, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que, pour le coup, cette mise en forme est, j'allais dire, d'une certaine manière, prise en otage, hein, par la, on va dire, sans être... par une dimension néolibérale dominante. C'est-à-dire que quelque part, on est dans une situation dans laquelle cet idéal, c'est l'idéal du sujet autonome, auto-entrepreneur de lui-même, responsable, et qui, d'une certaine manière, à partir de ce qu'il a, va constituer un capital humain monnayable sur le marché du travail. Ça, c'est... Et donc, on va d'une certaine manière avoir un système dans lequel il y a une sorte, j'allais dire, de libéralisation, de développement de liberté, de choix, une liberté un peu consumériste, à partir de ce que j'ai, de ce qu'on voit, qu'on perçoit en moi. Et tout à l'heure, vous avez parlé de validation, de acquis d'expérience. C'est très riche, sauf que l'expérience est captée par les compétences, diriger même du travail. C'est que toute la richesse de l'expérience est posée ailleurs, n'est pas nommée, et compétence. Ce n'est pas pour critiquer les compétences, mais quelque part, on voit bien cette main-d'œuvre, hein, qui consiste à remettre finalement la richesse des personnes dans un moule. Vous êtes libre de choisir votre avenir professionnel, ça c'est la loi de 2018, de la formation professionnelle, vous êtes libre de choisir votre avenir professionnel. Mais dans quelque chose qui est sécurisé, fléché, normalisé. Donc c'est important parce que quelque part, on voit bien qu'il y a une sorte de volonté de dire vous êtes libre, vous êtes autonome, vous avez une richesse, et en même temps, tout est fait pour que ce soit dirigé vers un marché du travail, y compris d'une certaine manière la formation, qui se trouve, elle est aussi dans un marché, puisque la formation fait aussi, d'une certaine manière, monétarisée, à travers le CPF et d'autres financements. Donc voilà, donc on est dans une situation tout à fait différente, et pour tout ça, pour vous dire qu'à la fois, on a l'idée d'une libération, l'idée d'une sécurisation des parcours, l'idée d'une normalisation. Et que font les formateurs là-dedans? Eux qui ont encore un idéal humaniste, un idéal d'émancipation. Et donc, ça, donc c'est j'allais dire, d'une certaine manière, la FREF s'ouvre beaucoup plus maintenant aussi sur, j'allais dire, comment tous les acteurs de la formation, qui sont en même temps en souffrance d'une partie de ce qu'on leur ampute, de ce qu'ils voudraient donner, comment ils font dans leur pratique? Comment ils tranchent entre leur idéal, leur engagement, la perception qu'ils font de la demande, les contextes qui s'imposent à eux, voire les marges de manœuvre qu'ils peuvent percevoir, y compris, j'allais dire, dans la demande des apprenants, ou bien également dans les choix pédagogiques qu'ils font. Et donc on s'est dit, et bon, c'est vrai que j'ai rencontré Jean-Marie il y a quelque temps et on a beaucoup parlé de cela. Donc, comment, d'une certaine manière, en mettant ça en jeu et en le désignant et en l'échangeant, comment, d'une certaine manière, émerge le réel de leur activité? C'est important parce que c'est à un moment donné, il faut que ça puisse se dire en mots, se sentir, s'échanger et, pour le coup, ouvrir des possibles et des transformations. Donc c'est dans ce sens que, dans cette biennale, nous avons organisé un café pédagogique, hein, dans lequel, j'allais dire, on va essayer de voir comment faisons-nous réellement expérience dans nos métiers Et qu'est-ce que cela produit sur les pratiques et sur les perspectives de transformation? À partir, évidemment, non pas d'un savoir que l'on va donner, mais à partir de le ressenti de chacun dans son expérience propre qu'il échange avec les autres. Donc voilà, voilà comment, d'une certaine manière, nous participons à la Biennale avec un grand intérêt. Je vous remercie de votre attention.
Nous devions avoir l'Unaphoris via Marcel Gégère, mais je crois qu'il y a un tout petit loupé. Donc Marcel a dû avoir sans doute un petit souci pour arriver jusqu'à nous. Donc on ne va pas s'apesantir sur les soucis. Donc je vous propose que l'Unaphoris, qui dans cette biennale est notre partenaire, hein, Marcel était compagnon pendant toutes ces deux années, donc ils ont dans le programme un moment qui est ouvert, hein, où vous pourrez effectivement venir écouter. Donc tout est dans le programme, vous pouvez regarder leurs propositions. Et effectivement, là encore, c'est cette idée du partenariat, hein, tous les partenaires qui sont ici, c'est aussi cette idée d'avoir des professionnels à nos côtés, et pas seulement, vous voyez, des chercheurs. C'est ce mélange, cette mixité, cette idée de coopérer, de dialoguer, qui est au centre de cette biennale. Voilà. Donc on avait tenu à vous présenter tous les partenaires. Donc maintenant, on va laisser la parole à vous. Merci. Peut-être qu'on peut faire la parole.